Ça
fait qu'une fois, hein, Coquin, parce qu'il est très beau, j'aime bien. Hein,
on il n'était va... pas trop, je crois que quand je l'avais fait, il n'était pas trop en place.
Il n'était pas trop en place.
Donc j'avais laissé
de côté. Tu l'avais laissé de côté. Mais il est très joli, puis il est facile, on s'en souvient. C'est pire que qu'est-ce qui fait pleurer les blondes. C'est quelque chose qui va nous rester dans la tête, là. Je vois notre frère Robert qui arrive. Et voilà, c'est un beau dimanche d'automne, pluvieux, gris, normand. Hein? Ça va tout le monde?
Oui.
Gloire à Dieu, moi aussi, comme disait l'autre. Oh, ça c'est une vieille blague qu'on se fait depuis des années, moi aussi. C'était dans un film avec Julie Andrews, il y avait une dame qui n'avait pas de classe du tout et qui voulait faire son intéressante, alors quelqu'un lui dit... elle demande à quelqu'un « Comment allez-vous » Le monsieur lui dit « Très bien » et puis elle lui dit « Moi aussi !» Alors, ça nous avait tellement fait rire et ça nous est resté « Moi aussi !» Bonjour Robert.
Bonjour.
Que Dieu soit béni. On va pouvoir commencer. On va lire dans Jean chapitre 2 et versets 1 à 11. Jean 2, 1 à 11. Or, il y eut des noces à Cana en Galilée. En fait, c'est écrit « Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. » La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répondit « Que veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Elle l'a coincé là, hein ? Elle l'a coincé. Ah, on a toujours besoin d'une femme pour nous booster, pour nous pousser plus loin. Et moi, je remercie, j'ai aussi ma femme qui est là pour me booster, pour me pousser plus loin. C'est formidable. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Ah ben, disons, ça va être lourd, hein? Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient très bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand on s'est enivré. » C'est bien juif, ça. Hein? « Mais bon, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ?» Tel fut à Cana, en Galilée, le premier signe miraculeux que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Oui, hein, ils donnent le bon, puis après, quand ils sont bourrés, ils leur donnent le mauvais. Oh, c'est petit, c'est... Enfin, voilà, que voulez-vous. Pour que Jésus assiste à ses noces, et surtout pour qu'il choisisse ce moment-là, pour faire son premier miracle, fallait-il vraiment qu'il ait une idée très élevée de ce que c'est que le mariage? J'ai été vraiment frappé de voir l'incrédulité chez certains chrétiens quand j'ai commencé à enseigner au sujet du mariage éternel. C'est un peu comme s'ils voulaient me dire... ces braves chrétiens, ah non, alors, marié sur terre, ok, ça y est, j'ai donné, mais pour l'éternité avec elle, ou avec lui, ah non, merci. En fait, personne ne l'a dit, hein, mais dis donc, ça transpirait dur. Quand je vous en ai parlé, avant de vous en parler, j'en avais d'abord parlé à Michou, à mon épouse, et si elle m'avait dit, chérie, non, je ne crois pas dans une telle doctrine et tout, vous savez, je suis... j'aurais vite compris. Je me serais dit, bon, ben voilà quoi, on est mariés, elle est fidèle parce qu'elle est chrétienne, mais elle serait bien contente que ça s'arrête, comme disent les pasteurs et les prêtres, lorsque la mort vous sépare. Et elle n'a pas dit. Elle était toute contente de savoir qu'elle allait passer l'éternité avec moi. Et ça, c'est merveilleux, ça, c'est l'amour. Amen. Vous voyez, c'est logique. C'est logique. Après avoir enseigné ces choses, donc au sujet du mariage éternel, j'ai, sans en avoir l'air, posé des questions autour de moi, ici et ailleurs, et Bon, ben les réponses que j'ai eues, c'était très, très étrange. J'étais un petit peu étonné. Les gens, et même les chrétiens, du moment où ils sont mariés, pensent qu'ils savent ce que c'est que le mariage. Ben, laissez-moi vous dire qu'ils ne savent pas grand-chose. Et ça a été vraiment un point d'interrogation dans ma vie. Je me suis dit, tiens, un choc, vraiment un choc. Alors, je vais vous apporter ce message ce matin pour montrer pourquoi est-ce que c'est quelque chose de sacré, le mariage. Nous avons été créés à l'image de Dieu, puis Dieu a séparé de l'humain qu'il avait créé à son image, il a séparé le côté féminin. Hein, on le sait, il a pris, la Bible dit, il a pris une côte d'Adam, mais en fait, il a pris du côté d'Adam, il a sorti quelque chose de Adam, il a sorti son épouse de Adam. Bon, ben, les gens lisent ça, puis ça ne les étonne pas plus que ça, et voilà. Moi, ça me fait poser des questions. Il y a, mes frères et sœurs, un côté masculin et un côté féminin en Dieu. C'est logique. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, si Adam a été créé à l'image de Dieu, c'est bien que ce qui est en haut, dans le domaine spirituel, est comme ce qui est en bas, dans le domaine dit matériel. Il y avait quelque chose de féminin en Adam, c'est qu'il y a quelque chose de féminin en Dieu. Puisque Adam était créé à l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26. Oh, voilà, alors il y a toutes sortes de doctrines qui sont faites là-dessus. Voyez, les trinitaires disent, voyez, Dieu parlait déjà des trois. D'autres disent, non, 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 c'est un pluriel d'importance. Dieu parlait de lui à la première personne du pluriel, soit faisons l'homme à notre image. Et puis, quand on lit Genèse chapitre 1, verset 29, Dieu dit, le même qui dit faisons Dieu à notre image, il dit je vous donne toute l'herbe des grains, etc. Il leur donne tout ce qui est sur la terre. Je vous donne, pas nous vous donnons. D'accord? Il y a donc ces deux polarités en Dieu, dans ce Dieu qui est un. En créant l'humain, Adam, Dieu a ôté de lui-même une partie de lui-même pour la mettre en face de lui. Et cette partie qui est en face de lui et qui est à son image, qui est comme lui, elle est là, et Dieu a ôté une part de cet être semblable à lui pour le mettre en face de lui, c'est-à-dire en face d'Adam. Donc Dieu avait quelque chose qui était semblable à lui en face de lui et Adam avait quelque chose qui était semblable à lui en face de lui. Vous me suivez? Hein, c'est pas bien compliqué. Ainsi, Dieu avait un vis-à-vis, l'humain, et l'humain avait un vis-à-vis, son épouse. Chair de ma chair, os de mes os. Hein, à l'époque, il n'y avait pas encore le sang. Et c'est de cet être humain, masculin et féminin, que Dieu va choisir son épouse terrestre, c'est-à-dire un vis-à-vis éternel. Alors j'entends d'ici là les cris des religieux coincés dans leur doctrine stérile qui ont crié au secours, mais tant pis, on ne va pas s'arrêter à ça. Si Luther s'était arrêté au cri du pape et des évêques, on serait toujours en train de se prosterner devant Marie, hein. J'aime beaucoup Marie, mais... Alors écoutez ça. Quand un homme s'unit à sa femme, ils deviennent une seule chair. Genèse 2, 24, c'est écrit. Pourtant, hein, moi je me suis uni à Michou, elle est là, et moi je suis là, on est quand même bien deux personnes. Distinctes, n'est-ce pas? Et pourtant, la Bible dit que nous sommes une seule chair. Dans la Nouvelle Bible, Archéo, c'est écrit, ils ne feront qu'un. C'est maintenant qu'il faut attacher vos ceintures. Prenez vos Bibles. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Oh! « Et le verset un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 12, 13, tout cela pour ne former qu'un seul corps, un corps. Nous sommes un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez, quand je vous parlais du corps de Dieu, et que je vous disais qu'il a un corps de chair et d'os, Jésus, quand il est remonté au ciel, eh bien ensuite il est revenu sur la terre avec un corps de chair et d'os, pas de sang. C'était fini le sang. Il a dit, un esprit n'a pas de corps de chair et d'os. Hein. Le corps du Seigneur. Donc, dans tous les lieux, que ce soit céleste ou terrestre, le principe du masculin et du féminin s'unissent pour devenir un, pour que la vie soit éternelle. Alors, je comprends que vous ayez un peu de peine à me croire. Même des conciles religieux se sont réunis, des théologiens savants, et ils ne sont pas venus à bout de ces questions. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps où les choses sont rétablies, et voici, je vous le dis, le masculin et le féminin, il existe partout. Et même chez les anges. Ah bon ? Ben oui, chez les anges. Et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui échappe à la majorité des gens. Zacharie 5 à 10. L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit, « Lève les yeux et regarde. Qui sort là ?» J'ai répondu, « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a répondu, « C'est la mesure à grains qui sort. » Il a ajouté, « C'est l'objet de leur regard dans tout le pays. » Un disque de plomb a été soulevé et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. Donc c'est comme, si vous voulez, une marmite ou une grande corbeille, je ne sais pas. Et il y avait un couvercle de plomb, et quand il soulève le couvercle de plomb, il y a une femme assise là au milieu. L'ange dit, c'est la méchanceté. Et il l'a repoussée dans la mesure, et il a jeté le disque de plomb sur l'ouverture. Zacharie dit, j'ai levé les yeux, et j'ai vu deux femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. Et j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Mais où emporte-t-elle la mesure à grains ?» Et il m'a répondu, « Elles vont lui construire une maison dans le pays de Shinéar. Quand elle sera prête, elle sera déposée là, sur sa base. » Ouh ! C'est quelque chose de très fort. Voilà qui clôt le débat au sujet du sexe des anges, mes frères et sœurs. Les théologiens protestants sont d'accord maintenant à ce sujet. Vous allez voir les commentaires à la page 1345 de la Bible Archéos. Maintenant, ils sont au clair. Le rétablissement de toutes choses, ça ne passe pas que par nous. Hein. Ça passe aussi par toutes sortes de gens spirituels, intelligents. La méchanceté est enfermée à Shinéar. Qu'est-ce que c'est Shinéar ? Ben, c'est Babylone, mes frères et sœurs. C'est Babylone. La méchanceté, le mot français, c'est dit méchanceté, mais ça désigne en fait le mal moral, religieux et civil. Bon, mais ça c'est une autre prédication, je vous prêcherai ça un autre jour. Mais il faut bien voir que donc là, il y a aussi le masculin et le féminin. Et le masculin et le féminin ne sont pas des bizarreries inventées par Dieu pour qu'on puisse s'amuser avec ici-bas sur la terre. Pas du tout. Tout ce qui existe dans l'univers a pour origine une rencontre, une union, une fusion entre le principe masculin, l'esprit, et le principe féminin, la matière. Vous vous rappelez ce que je vous ai prêché ? Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Si vous n'avez pas entendu cette prédication, c'est celle de vendredi passé, il faut l'écouter. La signification du mariage, sa grandeur, vient donc de ce qu'il est le reflet d'un phénomène qui dépasse celui de la création. Il dépasse infiniment la conception qu'ont les hommes et les femmes quand ils décident d'unir leur destinée dans les liens du mariage. Alors voilà, ne sachons pas tout le côté sacré du mariage, il y a beaucoup de mariages qui ne durent pas. Il y a un homme qui m'a rencontré sur Facebook et il m'a écrit avant-hier. La première phrase, vous êtes marié depuis 1974 à la même femme ? Oui, monsieur. Et nous sommes toujours heureux. Amen, n'est-ce pas, chérie ? Je voudrais vous faire voir une dimension extraordinaire du mariage. Sur le plan physique, un être humain est soit un homme, soit une femme. Shabbat Abad. Mais dans le plan spirituel, chaque personne possède en lui ces deux principes, plus ou moins développés. Chez l'homme, c'est plutôt la testostérone. Chez la femme, c'est plutôt les œstrogènes. Me trompe-je ? C'est ça, chérie ? Voilà, je demande parce qu'elle, elle est plutôt dans la médecine, moi. Dieu n'est pas moins Dieu depuis qu'il a créé l'homme, depuis que l'homme est sorti de lui. Et Adam n'est pas moins homme depuis que Ève a été tirée de lui. Alors nous avons en nous ces deux principes, masculin et féminin, à plus ou moins fort degré. C'est donc en chacun de nous que doit être célébré l'union harmonieuse de ces deux principes. Nous devons célébrer l'union harmonieuse de ces deux principes en nous. Notre côté masculin, notre côté féminin. Et là, l'union, elle est indissoluble. Si vous essayez d'être seulement masculin, vous allez péter un plomb. Nous avons les deux côtés. Et pour que les principes masculins et féminins qui sont en nous, et qui sont donc bel et bien en nous, soient en harmonie, il faut que chacun de nous, nous nous unissions à Dieu pour former un seul esprit, une réelle unité. C'est seulement dans la communion avec Dieu que nous sommes, que nous devenons capables d'harmoniser le masculin et le féminin qui est en nous. Personnellement, nous avons à nous unir à Dieu pour être un seul esprit avec lui. Personnellement, faut pas penser, voilà, il faut que ma femme le fasse ou il faut que mon mari le fasse. Non, c'est à vous de le faire. Si vous le faites, eh bien, les choses vont suivre. Pour que nous en Christ existe et que Christ en nous existe. Nous en Christ, c'est dans les lieux célestes et Christ en nous, c'est sur la terre. Vous êtes bien d'accord? Au niveau spirituel, ceux qui sont réellement un esprit avec Christ sur la terre, la Bible nous dit que nous sommes déjà unis à lui dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 1. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je disais l'autre jour, s'il m'arrive de mourir, quand je vais arriver au ciel, je vais vous rencontrer, même si vous n'êtes pas mort, je vais vous rencontrer parce que vous êtes déjà en Christ. Amen. Et tout ça, c'est pour un grand but. On va lire Éphésiens 1, 10. Éphésiens 1, 10, très intéressant. Moi, ça m'intéresse, peut-être ça ne vous intéresse pas, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, tout cela pour mettre à exécution, lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Voilà le grand but. Tout réunir sous l'autorité de Jésus-Christ. Il veut réunir quoi ? Dites-le-moi. Tout ! Il veut réunir quoi ? Tout sous l'autorité de Christ. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Sur la terre, qu'est-ce qu'il y a ? Tout ce qui existe est sur la terre. Et donc, le mariage de Michou et de Michel, ça existe et tout ça, ça sera sous l'autorité de Christ dans le ciel. Amen, amen. Et vous aussi, si vous voulez. Ce mariage sera sous l'autorité de Christ dans le ciel, lorsque le moment sera vraiment venu, comme tout le reste. Sauf ce qui est jetable. Bon, il y a des choses qui seront jetées dans les temps de feu. Alors, si l'épisode des noces de Cana est resté célèbre, c'est surtout à cause du pinard. Jésus a changé l'eau en vin. Les gens, ça les impressionne beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'il a voulu nous apprendre en faisant ce miracle ? Il nous apprend qu'il y a toujours une matière à transformer. L'eau, c'est un liquide qui est noble. Oui, mais le vin, c'est encore plus noble, n'est-ce pas ? Le français. Puis Jésus, il va avoir un petit côté français aussi, puisqu'il a fait du bon vin, hein ? Ça signifie que ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous faites, peut être noble, mais que ça peut être encore transformé. Votre vie a déjà été transformée depuis que Jésus est venu vivre en vous et qu'il est avec vous et que vous êtes avec lui, mais cela peut être encore plus beau, plus noble, plus saint. Et votre mariage aussi, et votre santé aussi, et même votre compte en banque. Tous, ils s'occupent de tout. Vous croyez ça?
Oui.
Tout peut devenir encore plus précieux. Et cette fois, c'est à nous de réaliser la transformation. Parce que si nous sommes réellement un seul esprit avec lui, alors nous pouvons faire ce qu'il a dit que nous pouvons faire parce que nous sommes ce qu'il a dit que nous sommes. Voilà. Depuis que nous sommes un seul esprit avec lui, nous le servons comme une épouse heureuse. Une épouse qui est heureuse, elle sert son mari avec joie, c'est sa nature, elle aime ça. Elle aime ça. Je suis désolé pour les femmes rebelles qui... Dans la nature, c'est comme ça. Cela signifie que nous nous mettons au service de ce qui est en nous le plus noble, le plus lumineux, et que nous lui donnons la possibilité de se manifester. Mais la vérité, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir servir Dieu pour être un bon serviteur. Un homme qui était venu vivre en communauté, et lui, son truc, c'était « Moi, je vis en communauté parce que je veux prêcher. » Eh bien, c'est nul. C'est nul. Il faut se préparer, il faut apprendre, il faut s'exercer. C'est comme dans la vie courante, mes frères et sœurs. Est-ce que même si vous le souhaitez très fort, ou que quelqu'un le souhaite très fort, est-ce que le premier venu est capable d'être un bon employé, un bon secrétaire, un bon ministre, un bon député? Non. En parlant de ça, vous savez que c'est aujourd'hui les élections au Burkina Faso. Il faut prier pour ce pays, que ça se passe en paix. Et normalement, je crois que c'est aujourd'hui que Nicolas va être élu député. Hein, je crois qu'il va passer. Il faut pour ça, pour être un bon employé, un bon ceci, un bon cela, il faut pour cela qu'il ait étudié, qu'il ait développé certaines facultés, certaines qualités. C'est la vérité. Alors, à plus forte raison quand il s'agit d'entrer au service du Seigneur. Sinon, on est un bricoleur. Voilà. Et puis... On va se servir à bricomarché pour servir Dieu. Puis on bricole. Il y a plein de bricoleurs. Que fera celui qui n'est pas préparé? Ben, il va commettre des erreurs qu'il aurait pu éviter. Il croira peut-être entrer au service du Seigneur, mais franchement, mes frères et sœurs, en réalité, il restera serviteur de ses propres maîtres, c'est-à-dire de ses préjugés, de ses partis pris, de ses illusions. Pour devenir un bon serviteur de Dieu, il faut faire de son être un lieu réservé. Regardons encore dans la vie courante. Que font les gens? Ils dépensent une énergie et des moyens formidables pour mettre leur maison à l'abri des voleurs, leur voiture à l'abri des voleurs, etc. Mais pour ce qui est de leur vie intérieure, les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes et même parfois les murs ne tiennent pas debout. Alors tous les voleurs, tous les démons, tous les esprits de mort qui sont lâchés depuis que le quatrième sceau était ouvert, selon Apocalypse 6, 7, 8, tous ces courants chaotiques circulent librement, ça rentre, ça sort. Ils ne se protègent pas, ils attirent des entités ténébreuses et c'est dramatique. Alors, comprenez bien que vous devez faire de votre être intérieur un lieu réservé à la divinité, au Saint-Esprit. Vous êtes réellement le temple du Saint-Esprit. Pas de place pour un autre esprit. Dehors les autres esprits, au nom de Jésus. Et on ferme bien les portes, et on se verrouille, on fait attention. On est vigilant. Plusieurs fois par jour, tournez-vous vers Dieu. Dites-lui que vous êtes à sa disposition. Demandez-lui de vous inspirer, d'agir au travers de vous. Hein, Paul y disait, on trouve ça dans 1 Corinthiens 3, 9, il disait, nous sommes ouvriers avec Dieu. Pas simplement ouvriers de Dieu, ouvriers avec Dieu. Et Dieu ne va pas nous demander de faire des choses surhumaines, mais seulement de lui consacrer chacune de nos activités, aussi modestes soient-elles, afin de contribuer à l'établissement de son royaume, premièrement sur terre, ensuite dans les cieux, et puis après sur la nouvelle terre. Mais toutes ces choses-là doivent être, toutes les choses, toutes les, même les plus petites, ça doit être fait d'une façon correcte dans l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi servir Dieu, ça signifie pas négliger son prochain. Au contraire, les vrais fils de Dieu, qui sont la vraie épouse de Christ, sont ceux qui s'efforcent de servir leur prochain, même s'ils récoltent de l'ingratitude. Il ne faut pas se décourager, Il faut voler plus haut que ça. Un vrai serviteur de Dieu, il a dépassé, il a réglé ses problèmes personnels, familiaux et sociaux. Il faut régler ça. Il est libre. C'est pourquoi je dis que c'est maintenant à nous de transformer. Vous voyez, l'eau en vin. Il est libre, le vrai serviteur de Dieu, de penser plus loin, plus haut. Il a des épreuves nouvelles qui arrivent, alors il retravaille à la transformation. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de régler certains problèmes pour pouvoir être libre de vivre notre vie communautaire, de penser et d'agir plus loin et plus haut sans les entraves. C'est ça que nous faisons en ce moment. Alors, il se peut que nous ressentions parfois de la lassitude. Et c'est normal que nous ayons besoin de nous relâcher un peu dans nos efforts. C'est normal. Mais attention, il ne faut pas relâcher votre vigilance, il ne faut pas relâcher votre système de défense. Ça, il ne faut pas. Pour vous protéger, il vous faut faire une prière dans le genre de celle-ci. Je ne vous dis pas de faire celle-là, mais de faire une prière dans le genre de celle-ci. Seigneur, en ce moment, je suis un peu fatigué. Je ne sais pas à quoi je peux te servir. Il me semble que je ne suis plus bon à rien, mais je suis à ta disposition. Fortifie-moi, aide-moi. Amen. C'est une sorte de chose. Alors, aucune entité maléfique n'aura le droit de pénétrer chez vous pour vous utiliser. Parce que ce qu'ils veulent, c'est vous utiliser. Hein. Vous êtes un lieu réservé. C'est pas n'importe quel esprit qui peut entrer, c'est pas n'importe quel esprit qui peut vous parler, c'est pas n'importe quel esprit qui peut venir. N'abandonnez jamais cette certitude. Vous êtes un lieu réservé. Et c'est en vous mettant au service du Seigneur et des gens que vous vivrez pleinement votre vie. Sinon, la vie, mon Dieu, ben, les gens l'ont résumé, hein. Métro, boulot, dodo, voilà. Ben, si ça vous intéresse, hein, bonne nuit. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, métro, boulot, dodo. Maintenant, ne vous imaginez pas que se mettre au service du Seigneur va vous donner une vie paisible, à l'abri des difficultés, des heurts et des souffrances. C'est pas vrai. Comme tous les autres hommes, les serviteurs de Dieu sont éprouvés. C'est comme ça. Et alors, c'est là que